Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 14h en temps universel, 15h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Le Liban saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies après la décision d'Israël de maintenir 5 positions militaires dans le sud du Liban en violation du cessez-le-feu. Les premières déclarations à l'issue du sommet à Riyad en Arabie Saoudite entre les chefs des diplomaties russes et américaines. Washington parle d'un important pas en avant. Également dans ce journal, l'assassinat d'un militant de l'environnement en Bolivie et le prix découvert RFI remis à la chanteuse guinéenne Queen Rima. On l'entendra d'ici la fin de ce journal. Et puis dans 10 minutes, vous retrouverez autour de la question « Pourquoi tout est une histoire de molécules ?» Le Liban dénonce une occupation après la décision d'Israël de conserver 5 positions militaires dans le sud Liban. Alors qu'Israël s'était engagé dans le cadre du cessez-le-feu de novembre dernier à quitter totalement le pays, le Liban va donc saisir le Conseil de sécurité de l'ONU à Beyrouth, Paul Khalife.
Les 3 plus hauts dirigeants du Liban, le chef de l'État Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri, ont publié un communiqué commun après une réunion extraordinaire ce mardi matin pour exiger un retrait israélien total. Ils ont estimé que toute présence israélienne, même sur un pouce du territoire, est une occupation et ont décidé de porter l'affaire au Conseil de sécurité. Cette démarche diplomatique enclenchée par le Liban n'est pas la seule option. Les 3 présidents ont insisté sur le droit des Libanais à libérer leurs terres par tous les moyens et ont réaffirmé la détermination de l'État à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. La présence des troupes israéliennes sur les 5 collines n'a pas empêché l'armée libanaise de se déployer dans 11 localités évacuées ces dernières heures. Des centaines de personnes ont suivi les soldats, faisant parfois des kilomètres à pied en brandissant des drapeaux du Liban et du Hezbollah et des portraits de Hassan Nasrallah. Les habitants ont découvert un paysage lunaire, les images sont parlantes. Des quartiers entiers en ruines, des routes défoncées, des canalisations d'eau et des infrastructures électriques détruites. Ces 11 localités sont tout simplement inhabitables. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En ce qui concerne maintenant la trêve entre Israël et le Hamas, le mouvement palestinien annonce la restitution des corps de 4 otages. Ce sera jeudi. Et samedi, en échange, Israël libérera des prisonniers palestiniens. Israël, par ailleurs, a annoncé le début des négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu. Début cette semaine, alors que selon le calendrier initial, ces négociations auraient dû commencer le 3 février. En tout cas, Israël maintient sa position et exige une démilitarisation complète de la bande de Gaza.
RFI, Radio France Internationale.
4h30 de discussion et un important pas en avance. C'est le bilan dressé par le chef de la diplomatie américaine après le sommet inédit depuis 3 ans entre les États-Unis et la Russie. C'était à Riyad en Arabie Saoudite. Commentaire plus prudent d'un des membres de la délégation russe. Difficile de dire si les positions russes et américaines se sont rapprochées. Il est encore trop tôt pour annoncer une date pour une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, estime, à l'issue de sa rencontre avec son homologue américain, que les États-Unis comprennent mieux la position de la Russie sur la guerre en Ukraine. Russie et États-Unis vont nommer des équipes de haut niveau pour négocier la fin du conflit. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, se dit convaincu que la Russie va s'engager dans un processus sérieux. Il assure aussi que les Européens devront prendre leur part dans ces discussions. Avant même cette rencontre, un des négociateurs russes évoquait la perspective d'une levée des sanctions d'ici 2 ou 3 mois, sanctions mises en place après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis voilà qu'on apprend que malgré ces sanctions occidentales, les Européens continuent d'acheter du GNL russe, du gaz naturel liquéfié. Les importations ont même augmenté de 20% en un an. Agnieszka Kumor.
Les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe passent essentiellement via les terminaux portuaires espagnols, belges et français. Près d'un tiers est passé par le terminal de Dunkerque. C'est donc la France qui a importé l'an dernier le plus gros volume de GNL russe, soit une augmentation de 81% par rapport à 2023. Mais ce chiffre n'explique pas tout, selon le rapport de plusieurs ONG. La France n'utilise pas tous ces flux, ils sont réexpédiés dédiée ailleurs en Europe, notamment vers l'Allemagne, pays qui a pourtant banni l'importation de GNL russe courant 2024, mais qui aurait reçu une partie des volumes importés par la France et la Belgique grâce à une interconnexion. L'Union européenne s'est tournée vers le GNL en remplacement du gaz transporté par gazoduc, dont la plupart ont fermé depuis la guerre en Ukraine. Transporté par navire sous forme liquide, ce gaz nécessite d'être déchargé dans les ports, regazéifié et ensuite injecté dans le réseau européen de gaz.
Anishka Koubar du service économie de RFI. Dernier bilan de la guerre civile au Soudan, une guerre entre l'armée et les paramilitaires. Des paramilitaires accusés d'avoir tué en 3 jours dans 2 villages dans le sud du pays 200 personnes, 200 civils. On parle aussi d'une centaine de blessés, de personnes portées disparues. Dans l'est du Congo, Kinshasa, de lourdes accusations contre les rebelles du M23. Une déclaration du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui parle d'exécution sommaire d'enfants lors de l'entrée du M23 dans la ville de Bukavu le week-end dernier. Et puis au Mali, dans la région de Kidal, lors d'une opération menée par l'armée malienne avec le groupe Wagner, plusieurs véhicules ont été ciblés qui transportaient des civils. Bilan, 28 passagers tués, dont des femmes et des enfants. RFI, les 15h07 à Paris, direction à présent la Bolivie après l'assassinat d'un militant de l'environnement, ce qui est plutôt rare dans le pays. Correspondance à La Paz de Nils Sabin.
Francisco Marupa était le leader d'une communauté indigène Leko située dans le nord-est de la Bolivie, une région où les mineurs illégaux sont très présents, tout comme les trafiquants de drogue ou encore les braconniers. Le leader s'opposait à ces activités et c'est cette lutte qui pourrait lui avoir coûté la vie. Le lendemain de l'assassinat, un suspect a été arrêté. Celui-ci a reconnu avoir été envoyé pour tuer Francisco Marupa. Les tensions entre communautés autochtones et mineurs sont monnaie courante, mais les assassinats beaucoup moins. C'est pour cela que l'affaire a eu un retentissement dans tout le pays. Le président Luis Arce a fait part de sa consternation et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les peuples autochtones. Cette affirmation a été critiquée par les organisations indigènes de la zone qui demandent depuis des années une intervention ou au moins un soutien de l'État pour faire face à l'avancée des mineurs, une demande restée lettre morte jusqu'à présent. L'Union européenne a déclaré dans un communiqué que cet assassinat était un exemple alarmant des risques et menaces qu'affrontent les peuples indigènes en Bolivie. Quant aux organisations indigènes, elles demandent qu'une enquête indépendante soit menée. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Queen Rima remporte le prix RFI Découverte 2025. La chanteuse guinéenne a été choisie par le jury présidé par Angélique Kidjo. C'est la 3e fois que Queen Rima participait au concours Edmond Sadaka.
La 3e fois aura donc été la bonne pour cette jeune chanteuse et danseuse de 28 ans. La qualité de sa musique et sa persévérance aussi ont séduit définitivement le jury. Dans ses chansons, Queen Rima mélange les rythmes du dancehall à des influences folkloriques guinéennes. Elle est d'ailleurs l'une des pionnières du dancehall, ce style né il y a une 50aine d'années en Jamaïque avant d'être écouté et dansé à travers le monde entier. La nouvelle lauréate se destinait dans un premier temps à la danse. Elle a accompagné de nombreux artistes guinéens sur scène ou dans leurs clips avant de monter une troupe de danse puis de se consacrer ensuite, il y a 10 ans, à la musique. Et le style qu'elle a choisi n'est pas le plus simple à défendre, le dancehall étant traditionnellement dominé par les hommes. Queen Rima chante en langue guinéenne mais aussi en anglais ou en français. Elle défend la cause des femmes et dénonce les inégalités qu'elles subissent aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'industrie musicale.
Boss Up de Queen Rima, prix Découverte RFI 2025. Il est 15h10 à Paris. Dans un instant, sur RFI, autour de la question.